Voilà, sœur Geneviève Ponneau, vous allez nous guider un petit peu ici dans ce lieu à Cantaous. Alors, où sommes-nous en ce moment?
Alors, ici, nous sommes dans le jardin de ce qu'on appelle le Generala, puisque ici, c'est la maison mère et il y a le gouvernement général qui est à demeure, c'est la maison générale en même temps, puisque nous sommes une congrégation internationale et le gouvernement général se trouve ici.
Parce que la congrégation a été fondée ici même, hein, où nous nous
Voilà,
trouvons, et c'est peut-être de là qu'il faut partir.
exactement, et c'est pour ça que je suis ici, parce que la congrégation, donc en 1843, a été fondée par 6 jeunes filles du village, entre 16 et 25 ans, et qui ont senti l'appel de Dieu. À cette époque-là, elles ont pensé être contemplatives. Elles avaient pensé à une vie au Carmel. Elles s'en sont ouvertes à leur famille. Et pour entrer au Carmel, il fallait un minimum d'éducation. Alors, le vicaire, à qui elles s'étaient aussi ouvertes, les a envoyées à Auzon pour apprendre un peu à écrire et à s'exprimer.
Osons, c'est où par rapport à
Auzon,
ici?
c'est à côté de Tournai, de l'abbaye de Tournai, juste à côté, où était aussi une abbaye bénédictine. Mais à cette époque-là, c'était les sœurs d'Igon, c'était les sœurs de la Croix qui tenaient une petite école. Alors, bon, et on les avait envoyées là. Et puis, les parents avaient accepté, mais enfin, ils se sont dit, et pourquoi on va les laisser partir, six à la fois? Et pourquoi on ne leur demande pas de rester avec nous ici? On va leur construire un couvent. On va les aider. Et le vicaire est allé leur demander qu'est-ce qu'elles en pensaient. Elles ont accepté. Elles sont restées à peu près 6 mois là-bas. Elles sont revenues au village. Et puis, elles ont commencé à s'installer ici, dans le presbytère qui est de l'autre côté, dans le presbytère du village que le vicaire leur a laissé. Et lui partait à Tusaguet dormir. Et elles ont commencé leur vie religieuse le 15 août 1843 en se réunissant dans ce presbytère. Et pendant ce temps, on a commencé à construire ce qui serait le premier couvent que vous avez ici. Pour nous, c'est pas très joli, mais c'est le centre de tout le couvent. On va y rentrer à l'intérieur et
Mais
vous allez
alors,
voir.
quand même, c'est pas rien, parce qu'alors, Cantaous, c'était un petit village à cette époque-là.
C'était un hameau
C'était un hameau.
de Tusaguet.
Donc, ça veut dire que six enfants qui se réunissent pour démarrer une vie religieuse, finalement, c'est tout le village qui est concerné.
Bien sûr, et c'est pour ça, justement, que tout le village a orienté finalement la congrégation. Et il y a un lien très étroit, il y a eu depuis toujours un lien très étroit avec le village.
Ce qui est beau dans ce que vous racontez, c'est que les parents ont été des soutiens dès le début. Il n'y a pas eu de doute,
Absolument.
il n'y a pas eu de
Ils
résistance.
ont accepté. Ils ont accepté. Mais, je vous dis, ils se sont fait comme l'intuition de Dieu
Oui.
pour les jeunes qui ont accepté et ils se sont engagés ensemble. Et ceci, bon, bien sûr, ce n'était pas comme ça. C'était simplement un rez-de-chaussée avec des branches sur le toit. Et c'est eux qui leur ont fait les lits et tout ça, quand elles se sont réunies le 15 août 1843. Pas ici, mais au presbytère. Et elles ont rejoint ceci 3 ans plus tard.
Quand les travaux avaient avancé.
Voilà, quand les travaux étaient pratiquement terminés. Voilà.
Alors, on voit au fond de cette. On peut appeler ça une cour. Hein,
Oui, c'était le cimetière de l'église, parce que l'église du village était à la place de cette extension de la chapelle.
Donc, on est aussi au cœur du village. On est au cœur de la vie du
Au cœur du
village.
hameau,
Au cœur du hameau.
qui est un village maintenant.
Et on aperçoit là-bas une statue.
Saint
Alors.
Joseph.
De Saint-Joseph, parce que les sœurs de Cantaous, on les appelle
Les sœurs.
également les sœurs de Saint-Joseph de Tarbes.
C'est Monseigneur Laurence, qui était l'évêque à cette époque-là, qui nous a donné le nom de Saint Joseph de Tarbes.
Pourquoi Saint-Joseph?
Mais c'est lui qui l'a proposé et nous y avons adhéré. Et à cette époque-là, il y avait une grande dévotion à Saint-Joseph dans toute la France. Il n'y a qu'à regarder la liste des congrégations qui s'appellent Saint-Joseph. Mais nous étions Saint-Joseph de Tarbes.
Voilà.
Mais les habitants de Cantaus...
Ils savent bien, eux, que la congrégation n'est pas née à Tarbes, mais qu'elle est née à Cantaus, bah, c'est ça.
C'est Joseph de Cantaus.
Alors, on poursuit la visite.
Oui, si vous voulez. Alors, ici, effectivement, c'était le cimetière. Le cimetière qui entourait, comme dans tous les villages, l'église paroissiale. En 1958, on a demandé au village de nous céder la place de l'église paroissiale pour agrandir notre chapelle, vous le verrez de l'intérieur. Et ceci, on a sorti les tombes qui étaient autour, on les a transférées dans le cimetière du village qui a été créé à cette époque-là, mais il est toujours resté pour nous terre sacrée. Il n'y a jamais eu que des fleurs.
Et c'est un havre de paix, c'est vraiment, c'est reposant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on garde... Alors, l'église du village, au début, que les sœurs ont été là, ont été leur chapelle. Il n'y avait pas la chapelle du couvent. Il y avait l'église qui était leur chapelle.
Et ça facilitait aussi peut-être cette transition. Elle construisait quelque chose, mais en douceur.
On restait ensemble. Ouais, on restait ensemble. Il y a un lien qui a été toujours... Et vous voyez, on peut passer de l'église paroissiale au couvent.
Vous le ressentez toujours aujourd'hui, ce lien avec les habitants de Cantaus ?
Peut-être pas avec l'ensemble du village qui n'a pas peut-être adhéré à l'histoire entièrement. Et puis il y a les nouveaux aussi qui sont arrivés, qui ne connaissent pas cette histoire. Mais il y a un groupe dans le village, il y a des groupes. Et quand il y a une fête, tout le monde est là.
Allez, on poursuit la visite.
Alors si vous voulez, on va passer par l'intérieur. Aller voir la chapelle de l'intérieur.
Ah,
alors.
Oui.
Les visages de l'église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.
Voilà, donc ce couloir immense, eh bien, il n'a pas été fait tout de suite.
Non, la maison s'est faite petit à petit, parce qu'effectivement, il y a eu une croissance, mais extraordinaire, dès le début. Dès les 10 premières années, on avait, je ne sais plus si c'est 8 maisons.
Dès le début, c'est-à-dire que le modèle a touché les jeunes de l'époque.
Ça correspondait à un désir des jeunes de l'époque. Parce que très, très vite, il y a eu un afflux de jeunes qui répondaient à cet appel.
Et donc, alors, il a fallu pousser les murs de Cantaus.
Il a fallu pousser les murs.
Alors, quand même, un petit mot avant de poursuivre sur la mission, l'apostolat de ces jeunes, parce que c'était une alternative, un petit peu, leur proposition, avec cette vie contemplative dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Alors, ce sont encore les gens du village qui ont dit, pourquoi allons-nous les laisser partir ? Qu'elles restent ici, elles s'occuperont des enfants et de nos malades.
Donc deux vocations, l'éducation et puis le service auprès des personnes malades.
C'est ceux qui ressortent immédiatement, ils ont adhéré à cela et cela a répondu à un appel. Et vous savez, moi j'étais générale à un moment donné et quand en Inde par exemple, je me rappelle très bien d'un Inde, quand on nous arrêtait, les gens sortaient pour nous arrêter quand on arrivait en voiture, nous voulons un dispensaire et une école. Les mêmes paroles.
Ah oui. Parce que c'était les besoins des populations.
Toujours des populations les plus pauvres.
Et
c'est pareil. Exactement les mêmes mots.
Voilà, sœur Geneviève, nous voici dans la chapelle. Une chapelle qui réserve beaucoup de surprises.
Tout à fait. Je vous avais dit de l'extérieur, voici le premier couvent. Hein. Puis à côté, une énorme bâtisse, hein, et c'est l'extension que nous avons demandé en 1958, parce que la congrégation était en plein essor, la chapelle ne suffisait plus. Là, nous avons demandé à la commune de nous céder l'église paroissiale pour que nous puissions allonger, disons, la chapelle. Et nous avons reconstruit la chapelle, l'église paroissiale de l'autre côté du mur. Ça reste mitoyen.
Alors, décrivez-nous un peu cette fresque-là, immense.
Cette fresque a la particularité, ce n'est pas une toile, elle est directement dans le ciment, peinte dans le ciment. En 1958, c'est Jean-Claude Bringuier qui a fait cette fresque. Et il a peint au fur et à mesure qu'il
construisait le mur, en fait.
Pas qu'il construisait le mur, mais qu'il posait l'assise de la peinture.
Et alors, c'est étonnant, cette chapelle est très étonnante. Alors, j'invite vraiment les auditeurs de Radio Présence qui ne connaissent pas ce lieu de Cantaous à venir découvrir. C'est tout coloré, la luminosité, ces tons jaunes et rosés, là. C'était très moderne pour l'époque.
C'est le père Odilon d'Incalca qui est l'architecte, qui est décédé, bien sûr. C'était en 1958.
Vous disiez que 59, la nécessité...
En 1959. On l'a inauguré en 59.
Alors, vous disiez que, en fait, ce besoin de pousser les murs de la chapelle venait aussi du fait que la congrégation était grandissante à cette époque-là. Oui. Il y avait combien de sœurs? Elles ont démarré à 6 et en 1960, elles étaient combien?
En 1960, je ne saurais pas vous dire, mais ça devait être entre 450 et 500. Nous sommes 700 actuellement. Je suis rentrée postulante à ce moment-là.
Ah, donc vous avez
vu tout ça. Et on a inauguré cette chapelle.
D'accord.
Et on devait être entre 50 et 60 ici, je crois.
Voilà.
On était une grosse communauté.
Oui.
Maintenant, nous sommes moins nombreuses, on est une vingtaine. 25 avec le généralat.
Qu'est-ce que vous appelez le général-là ?
C'est l'équipe responsable de toutes les missions, si vous voulez, des 700 sœurs,
qui sont dans
14 pays.
D'accord. Et qui sont, ces sœurs qui s'occupent, qui sont du général-là, oui. Elles vivent ici aussi ?
Elles vivent ici aussi, c'est la maison générale et c'est la maison mère. Maison mère, c'est la fondation qui a été faite ici. Et la maison générale, c'est la maison du gouvernement général de la congrégation, parce que nous sommes en province et région. Il y a une générale et son conseil qui est élu par l'ensemble de la congrégation. Et puis après, il y a les provinces qui fonctionnent avec une certaine autonomie, mais toujours en dépendance du gouvernement général.
Donc, ces sœurs sont amenées à bouger dans le monde pour aller visiter les congrégations.
Exactement. Actuellement, la supérieure générale est à Mysore, où elles ont le chapitre de la province de Mysore. Sœur Sophie, qui est conseillère générale, est à Bangalore, où elles ont aussi le chapitre de la province de Bangalore. Et puis, il y a en Amérique latine, il y a l'Afrique.
Alors, c'est marrant parce qu'alors, il y a l'Europe. Alors, tout a démarré ici. Tout est encore géré ici,
mais avec une très grande mobilité.
Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça rajoute un trait à vos vocations et à vos apostolats. Il y a l'éducation, il y a le service auprès des malades, mais vous êtes aussi des sœurs missionnaires.
On est des sœurs missionnaires depuis on a donc commencé en 1843. En 1881, 82, on a commencé la mission de l'Inde, qui est maintenant très développée, les missions d'Amérique latine. Et ça s'est fait aussi en relation beaucoup avec Lourdes, où quelquefois nous avons eu les contacts pour faire la demande des missions, des gens qui voulaient qu'on aille chez eux.
Voilà. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, évidemment, vous êtes une congrégation locale, hein,
oui,
de Cantaous, mais du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Donc ce lien avec le diocèse, il ne faut pas le négliger.
Ouais. C'est vrai, tout à fait. Voilà.
Alors on poursuit. Sœur, où est-ce que vous nous emmenez?
Donc, ici, la vie de la congrégation a vraiment commencé entre ces quatre murs. Voilà.
On est dans le lieu historique.
On est dans le cœur de la congrégation. Oui. Bon, il a fallu agrandir très très vite. Hein. C'est ce qui explique que Tout ceci, après, ce sont les dépendances. Hein, ce sont les dépendances. Il y a les, le, d'abord, ceci a, la chapelle a été les chambres.
Ah oui, alors en fait, le lieu n'a cessé d'évoluer. Et on verra tout à l'heure que aujourd'hui, il y a encore des évolutions.
On le voyait aussi, beaucoup, on le voyait encore à la place des chambres. Mais, l'église paroissiale servait de chapelle. Mais avec le développement, on a mis d'abord, il a fallu des chambres pour pouvoir vivre. Et petit à petit, on a rajouté. Voilà. De l'extérieur, si vous voulez venir, on le voit très très bien.
Eh bien, on y va. Allez. On va à
l'extérieur. Les visages de l'église en Bigorre. Anne-Rose Jankovic.
Alors, nous voilà dehors, dans la cour qui se trouve finalement derrière les bâtiments. Hein. Oui. Alors, magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées.
La chaîne des Pyrénées.
Mais vous êtes gâtés.
Nous sommes pauvres, mais nous avons un panorama que personne ne peut nous enlever parce qu'il se trouve au bord du plateau. Ici, on était vraiment à l'extrémité du plateau et il n'y a que ce bâtiment qui a été là et que nous avons voulu parce que il est une ce bâtiment l'année dernière était chez nous.
Alors de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un EHPAD.
Alors vous accueillez jusqu'à l'an passé l'EHPAD en vos murs.
Tout ça, tout le premier et le deuxième étage étaient l'EHPAD.
Et puis avez été obligé de faire quelques travaux.
On a été obligé de faire des travaux parce qu'un couvent n'est pas fait pour accueillir un EHPAD d'aujourd'hui, Mais on nous a laissé un certain temps pour préparer autre chose à l'extérieur. C'est ce que nous avons fait et le 20 novembre, je crois que c'est, l'EHPAD est parti. Nous avons cédé ce terrain pour que l'EHPAD aille se faire là-bas.
Est-ce que vous êtes en service aussi, vous, auprès des personnes malades et âgées qui résident à l'EHPAD ?
Non, nous ne sommes plus en service maintenant. Nous avons cédé le terrain à une association. D'accord. Qui a repris nos œuvres en charge parce que, vu l'état de nos âges, nous ne pouvions plus continuer cette mission.
Mais alors, on sent quand même vraiment une proximité, enfin, un lien très fort dans tous ces lieux de vie. Oui. Bon, il y a quand même un jardin à traverser pour rejoindre l'EHPAD.
Il y a la petite porte blanche là-bas, On y passe directement.
Tout est lié et on a l'impression quand on vient à Cantaous que finalement, il n'y a pas de mur entre les différents lieux de vie de ce hameau, que vraiment, peut-être vous avez tous, enfin vous, la communauté, puis les habitants, gardé ce lien très fort. On vit ensemble, en fait.
Je pense que notre charisme est un charisme de communion.
Oui.
Et je crois que je ne sais pas qu'est-ce qui a existé d'abord, si c'est le charisme, le nom du charisme, ou si c'est la vie. Je crois que c'est d'abord la vie qui nous a fait nommer le charisme.
Ah oui, ça se sent. Vraiment, ici, on le sent très, très fortement.
On nous dit beaucoup cette chose-là.
Oui. Alors, on poursuit. Ici.
Alors, voyez, ici, voyez, ça fait un T. La maison fait un T. Vous voyez ? Comme ça, un T. Vous voyez ?
Ouais. Voilà. Tu le vois.
Alors ici, de l'autre côté, c'était le général A. Hein, vous avez vu?
Ouais.
De ce côté, tout ça était le collège, parce qu'il y a eu un collège jusqu'à il y a 4 ans.
Un collège avec un internat.
Avec un internat. Alors tout ça, c'était le collège. Là-bas, c'était l'aumônerie. Ici, c'était l'EHPAD.
Voilà. On rigole parce que vous bougez dans tous les sens, forcément. Forcément, le site est tellement grand, il faut quand même que j'explique aux auditeurs pourquoi peut-être le son n'est pas parfait. C'est que le site est tellement grand que pour pouvoir tout me montrer, vous bougez dans tous les sens et que j'ai du mal à vous suivre avec mon micro.
Voilà. Vous voyez aussi, les différentes constructions. Vous voyez, jusqu'au bout là-bas, vous voyez que c'est des rajouts.
Donc, on voit aussi les différentes étapes, les différentes périodes.
Le collège aussi, vous voyez. Le pensionnat se trouvait tout à fait en haut, les dortoirs. Hein. Et puis là, c'était les classes. jusqu'au bout, tout à fait. Et le pensionnat, c'est pareil, ça commençait là. On avait la ferme, autrefois la ferme était ici aussi.
Quand même, encore un mot sur l'école, parce que j'entends des cris d'enfants, il y a toujours des élèves ici.
Voilà, alors il y a 4 ans, nous avons été obligés de fermer le pensionnat et le collège. Mmh. Hein. Nous avons d'abord gardé le collège 3 ans, parce que nous pensions pouvoir le faire vivre sans l'internat. Mais cela a été très difficile en zone rurale. Oui. Alors, à bout de 3 ans, on a tout fermé complètement. Mais la DDEC,
la Direction diocésaine de l'enseignement catholique,
très bien, nous a demandé...
J'ai bien appris mes leçons.
Ah, c'est très, très bien. nous a demandé de garder le primaire, parce qu'il n'y avait plus d'école dans cette zone. Alors, nous avons accepté de garder le primaire dans nos murs, mais c'est Garaison qui a la responsabilité administrative.
Donc, c'est-à-dire que la directrice de l'école primaire qui se trouve à Garaison, donc à quelques kilomètres de là, à 18 kilomètres, est aussi la directrice de l'école maternelle et primaire qui se trouve ici, dans vos murs.
Exactement, exactement.
Il y a combien d'élèves aujourd'hui ?
Écoutez, on doit être dans les 55. On a redémarré à 25, je crois.
Et donc, ce sont des enfants, évidemment, de Cantaous et des villages alentours.
Et des villages alentours.
Voilà. Encore un lien, en plus, avec les familles.
Voilà, c'est ça.
Voilà, alors, on poursuit notre visite.
Ce jardin-là, qui est aujourd'hui un jardin de loisirs, quoi, plutôt, c'était notre jardin potager. Autrefois, parce qu'aujourd'hui nous avons une société de restauration et qui n'accepte plus les légumes frais.
Alors qui n'accepte plus les légumes frais, mais vous êtes quand même très attaché aux produits frais, parce qu'on va parler maintenant de la ferme. Voilà. Il y a de l'autre côté du bâtiment où on se trouve actuellement une ferme qui fait partie de la maison Cantaous.
Voilà, nous avions une ferme avec du bétail. Bonjour Annie. On avait une ferme avec du bétail, avec des terres. On avait un parc qui est la châtaignerie là-bas. Et on ne pouvait plus le travailler. La terre restait pas travaillée. Et nous avons à ce moment-là eu une demande d'une association si on voulait prêter ces terres. Pour une association qui s'occupait de la réinsertion des personnes sans travail.
Donc il s'agit de chantiers de réinsertion en fait, c'est ça. Donc aujourd'hui il y a des personnes qui travaillent la terre et qui produisent des légumes.
Des légumes, oui, je crois que c'est des légumes bio. Et en même temps qui sont payées pendant quelques temps. Elles sont 12 personnes.
Donc 12 personnes peuvent travailler grâce à cette ferme, à ces terres que vous mettez à disposition. Et puis les produits bio qu'elles produisent sont vendus sur les marchés locaux.
Les gens viennent les acheter ici.
Voilà, donc encore un lien avec la population. Voilà. On revient toujours à cette communion, sous différentes formes.
C'est très fort, c'est très fort. Voilà. Et alors là, c'était le jardin potager, qui est maintenant un jardin où les enfants peuvent aller, où des jeunes viennent camper quand ils sont de passage. Nous utilisons les dortoirs et tout ça pour...
Bon, ça, c'est... Vous voyez, par exemple, des camps de vacances, des camps scouts, par exemple.
Ou de passage vers Lourdes, entre Garaison et Lourdes, comme ça.
Alors, vous avez ici, est-ce que vous bénéficiez, entre guillemets, ici, d'un rythme touristique ?
Il n'est pas organisé encore, c'est pas très organisé, mais un rythme ponctuel des gens qui nous appellent, pouvez-vous nous loger ? C'est tout à fait organisé, ça c'est organisé, mais à petite échelle.
Mais maintenant, nous sommes en train de nous organiser dans des petits groupes qui préparent des activités parce que, comme déjà, nous avons la partie de la maison de retraite qui est vide. Nous sommes en train de nous organiser, de programmer des activités pour faire la publicité, pour accueillir des différents groupes de pèlerins qui viennent de Lourdes, mais aussi des enfants des écoles, des paroisses, et aussi des personnes qui peuvent venir pour se reposer quelques jours ici.
Voilà, donc c'est un peu un double appel, hein, et c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler. Donc les pèlerins qui sont au sanctuaire de Lourdes, ils sont de plus en plus nombreux à venir aussi visiter le sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Alors c'est très facile quand on vient de Lourdes à Garaison de faire un crochet par Cantaous, ce serait quand même dommage de s'en priver. Voilà. Et puis il y a aussi les mouvements, associations ou services diocésains qui peuvent venir ici pour une journée de recollection.
Joseph de Tarbes sont à l'origine de... et continue de participer à Prado la Cède, à l'institution de Prado la Cède. Et ils sont venus finir l'année ici, on avait mis les tables ici, c'était très très intéressant, ils étaient très heureux aussi. Nous avons fait un accueil international, puisque nous avions les sœurs indiennes, et maintenant nous avons les sœurs africaines aussi qui sont là.
Voilà. Ça rayonne dans le monde entier et après ça revient ici pour...
Je crois que c'est important parce que nous sommes maintenant dans notre région de France, 12 sœurs des autres pays. Et avant, nos sœurs sont parties en mission, maintenant nous venons pour participer de notre mission ici. Nous sommes des sœurs de l'Amérique latine, de l'Inde et de l'Afrique. Et nous avons déjà 2 sœurs kenyennes.
Et ouais, donc ces sœurs...
Nous avons fondé au Congo. La France, en 2012, nous avons fondé au Congo Kinshasa.
Donc c'est une congrégation qui se développe, qui continue de se développer dans le monde.
En France, c'est difficile. En Europe, c'est difficile, comme pour toutes les congrégations. Oui. À l'étranger, nous avons des noviciats pratiquement. On a un noviciat interprovincial pour l'Amérique latine. Et nous avons un noviciat dans chaque province de l'Inde.
Et en Afrique aussi.
Et l'Afrique aussi.
Et Ouganda.
Oui, l'Afrique. Et en Ouganda aussi, on a 2 noviciats. En Ouganda, au Kenya, au Congo, ça commence à peine.
Voilà, mais donc petit à petit, donc 700 sœurs dans le monde en tout.
Dans 15 pays. Et 4 continents.
Les visages de l'Église en Bigorre. Anne-Rose Jankovic.
Voilà mes sœurs, alors on se trouve encore dans un autre lieu, alors décidément votre site à Cantaous nous réserve bien des surprises, on découvre encore un lieu différent, plus récent, de quoi s'agit-il? Quelle sœur veut bien nous guider, nous orienter, nous expliquer de quoi s'agit-il? Sœur Fatima.
Il s'agit, c'est un désir de... Nous toutes, d'avoir un lieu où on peut présenter quelque chose qui peut rester, non? Comme SJT Héritage. Okay? Bon, on a discuté longtemps. On a essayé d'abord faire un DVD. Bon, c'est fini. Mais cette chose, on ne savait pas comment il faut faire. Finalement, Philippe Cabidoche nous a proposé de nous aider. Finalement, c'est ça, ce qu'il a conçu, ce qu'il a présenté. Mais nous, dans l'équipe Geneviève, Marie-Thérèse, Sœur Merci Jacob, qui est supérieure générale, on a travaillé sur ce musée. Nous ne voulons pas dire musée, mais c'est SJT Héritage.
C'est un musée dans le sens où il présente votre histoire. Hein. Alors, décrivez un petit peu, parce qu'évidemment, les auditeurs, alors il faut qu'ils viennent hein, de toute façon. Et il n'y a pas d'autres moyens pour vraiment sentir le lieu. Il faut venir, mais quand même, vous pouvez peut-être nous décrire un peu pour donner l'eau à la bouche.
C'est divisé en 5 parties. Mm-hmm. 5, je peux me tromper, mais compléter. Hein. La première partie, c'est l'historique, non? L'historique de notre congrégation. Et tout ça. Et là-bas, c'est pendant la persécution. C'est parti.
D'accord.
OK. C'est parti, c'est l'historique. Après, la croissance de notre congrégation. Avant la persécution. D'accord. Mais après la persécution...
En même temps.
Oui. Et là-bas, on nous montre l'expansion.
Alors, on voit des photos, c'est impressionnant. Toutes les sœurs qu'on voit là sur ces photos, qui datent de quelle époque?
Du début.
Dès le début.
Du début jusqu'à 1900,
Donc là, c'est la fin du 19e siècle.
Oui.
Ici, il y a une télévision qui montre l'histoire de la congrégation aussi. Parce que nous avons fait, pour fêter nos 75 ans, nous avons fait une vidéo de l'histoire de la congrégation. C'est aussi avec Philippe Cavidoche qui nous a aidé. Et ici, ça passe toute notre histoire, mais surtout les origines.
Alors, vous parlez de cet écran-là qui présente la vidéo. Juste au-dessus, il y a la photo d'un père. Le père paye dessus. Et puis, il y a aussi l'image du sanctuaire de Garaison. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a le père paye dessus et le sanctuaire de Garaison, Sœur Geneviève?
Oui. Au début de la congrégation, c'est le père Bazerque, qui était vicaire de la paroisse, qui a pris en charge naturellement le petit groupe des jeunes filles qui recevaient cet appel du Seigneur vers la vie consacrée.
Et qui a laissé son presbytère pour que les premières jeunes filles...
Totalement dévouées et données, mais qui manquaient un peu d'équilibre quand même.
Ouais.
Alors, quand il s'est agi vraiment de donner une formation aux jeunes, il voulait le faire, mais c'était un peu débordant, c'était un peu exagéré. Et Monseigneur Laurence, à ce moment-là, lui a demandé de se retirer. Et ce sont les pères de Garaison qui venaient de reprendre leur activité, qui nous ont été d'un très grand secours, qui ont pris en charge la formation des sœurs. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, un lien très étroit s'est tissé avec les pères de Garaison qui nous ont formés et à qui nous devons toute notre formation de ces premières années.
Alors aujourd'hui, au sanctuaire de Garaison, ce sont les pères de Sainte-Croix qui sont présents, mais le lien existe toujours parce que ce sont deux lieux aussi, et puis deux villages.
C'est naturel, c'est des relations naturelles qui continuent. Oui. Bien sûr, on n'est pas éternel, les humains, nous ne sommes pas éternels, les pères de Garaison n'ont pas pu continuer, d'autres pères sont venus, mais on continue de travailler ensemble. Oui.
Même le conseil général et le noviciat est parti à Garaison.
À un moment donné,
oui. En 1861, je pense. Oui. Mais très vite, les habitants
nous ont fait revenir.
Et oui, mais vous êtes une congrégation
d'ici. Ils ont eu recours à l'empereur Napoléon pour faire revenir le couvent, le noviciat et le gouvernement qui étaient partis à Garaison. Ils doivent être à Cantaus.
Parce qu'en fait, l'identité du village, c'est aussi cette congrégation des sœurs de Cantaus.
Un peu, non. Ils ont leur propre identité, il n'y a pas de doute. Ouais. Tout le monde est libre, n'est-ce pas, on n'est pas...
Mais le village est vraiment marqué par ça.
Il y a un lien, il y a un lien. Ça, c'est sûr. On a eu une période où, en 1903... On avait eu une ascension extraordinaire au niveau, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Et puis tout d'un coup, en 1903, le gouvernement d'Émile Combes a fermé 97 maisons en deux mois, entre juillet et septembre, avec interdiction aux congrégations d'enseigner. On s'est retrouvés sans rien. Noviciat fermé, interdiction de recevoir. Et les sœurs, à ce moment-là, les mères des communes où nous avions des maisons, des petites maisons, des petites écoles communales, des écoles communales nous avions. Parce
dans lesquelles les sœurs enseignaient.
Les sœurs enseignaient, c'était comme ça. On avait fondé, les mères nous demandaient de fonder, on fondait. À ce moment-là, les mères des communes sont venues nous dire « Mais laissez votre habit, c'est-à-dire rompez extérieurement avec votre congrégation et rester et enseigner. » Ils arrivaient tous par la petite gare qui est là au fond. Et les évêques ont accepté cette chose-là. Et les sœurs sont restées, elles ont quitté l'habit. C'est ce qu'on a appelé la sécularisation. Et elles sont restées enseigner dans les villages. Et cela n'a pas duré... 3 ans, ça a duré jusqu'en 1942, où on a rendu aux congrégations le droit d'enseigner. Et nous avons passé une période critique à ce moment-là.
Mais la congrégation a continué à évoluer.
Oui, parce que nous venions de fonder à l'extérieur, en 1881. Vous voyez, c'est pas... Et à ce moment-là, beaucoup de sœurs qui ne pouvaient plus travailler ici sont parties soutenir les missions.
Oh, le Seigneur avait quand même bien planifié les choses.
Tout à fait, comme tout à fait au début aussi. S'il n'y avait pas eu les persécutions des empereurs de Rome, il n'y aurait pas eu l'expansion du christianisme. Et alors, ici, en 1914, le couvent était vide. Et c'est le préfet, parce que le préfet qui est venu nous demander si on pouvait recevoir, après toutes ces persécutions du gouvernement, qui avait vidé le couvent, si on pouvait recevoir les blessés de la guerre de 14. Et la supérieure générale a dit qu'elle pouvait recevoir qu'ils étaient chez eux. Ouais. Et ils sont arrivés, on est resté 3 ans avec les prisonniers.
Donc les sœurs ont soigné les blessés, les soldats blessés.
Les soldats blessés, ceci c'est des restes qu'on a retrouvés dans les greniers.
Oui. Ah oui, les outils de persécution.
Même la cloche pour sonner.
Ça, c'est la cloche que les malades sonnaient pour appeler les sœurs. Et là, une mallette...
Des choses qu'on a retrouvées.
Une mallette à outils, ça ne donne pas envie d'être malade à Kantaus. Ah oui.
Et le préfet, ce jour-là, nous a dit « Mes sœurs, vous êtes sous ma protection. » Quand il a vu qu'on
acceptait.
Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est une période très, très... Très dur.
Alors, cette exposition que vous ne voulez pas appeler musée, mais qui quand même retrace toute votre histoire, quand est-ce qu'on peut venir la voir? Quand est-ce que les auditeurs de Radio Présence peuvent venir?
Quand vous voulez.
C'est-à-dire que n'importe quel jour, on peut sonner à la porte des sœurs de Kantaus et dire « je veux visiter l'exposition ».
Avant, vous pouvez téléphoner.
Ah, voilà.
Parce qu'en cas, nous, soit Geneviève, Marie-Thérèse...
Un numéro de téléphone?
Oui, oui, on va vous donner. 05 62 40 70 00 et vous demandez pour sœur Geneviève pour nous ou sœur Marie-Thérèse Romero, ou Fatima.
Voilà, parce que cette exposition, bah, il faut la visiter, mais il faut être guidé.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, on poursuit notre petite enquête sur les traces des sœurs de Kantaus, et on quitte cette belle exposition.
Les visages de l'église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.
Alors là, c'est merveilleux. Alors,
c'est... Ah, ça, c'est joli.
De surprises nous réservez-vous? Là, c'est un lieu, on dirait un musée miniature. De quoi s'agit-il?
Nous avons eu récemment un chapitre général, c'est-à-dire qui a amené toutes les...
C'est les jeunes.
Ça a amené des délégations de toutes les parties de la congrégation. Des jeunes.
Qui sont venues ici toutes à Kantaus pour célébrer avec vous le jubilé de la congrégation.
Voilà. Pas toutes, mais certaines. Ouais. Certaines. Une délégation.
Toutes les parties du monde où il y a des sœurs de Kantaus étaient représentées ici.
On a voulu souligner la culture des différentes parties internationales, quoi. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces décorations-là, mes sœurs?
La sœur qui a rangé tout ça, elle a trouvé ça dans le grenier. Je pense pour faire... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
C'est un mannequin de couture. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dessus?
Des guirlandes fabriquées. C'est vrai, c'est artificiel parce que chez nous, les guirlandes, c'est naturel, avec des fleurs. Quand on accueille quelqu'un chez nous, on accueille avec... comment dire... de bois de santal, de pâte de bois de santal, et une marque en main, mais avec un kumkum, c'est une poudre rouge qu'on met sur le front des personnes qui viennent. C'est un signe de respect, un signe de bienvenue.
Alors ça, c'est une tradition en Inde.
En Inde. Et après, on le fait guirlandais. On met une guirlande de fleurs.
Ah non, parce qu'en guirlandais, ça a une autre signification pour nous.
Oui, enfin, c'est ça. C'est ça, mais maintenant, on porte ça parce qu'ici, on ne trouve pas de guirlandes naturelles.
Mais j'ai l'impression quand même, mes sœurs, que dans votre congrégation, on aime bien faire la fête. Est-ce que je me trompe quand même,
hein? Oui, parce que c'est la culture de notre pays. Et on est ici, mais on amène aussi la culture, non? Et c'est la richesse de notre congrégation.
Voilà, donc nous sommes toujours à Cantaous, au cœur même de cette congrégation des sœurs Saint-Joseph de Tarbes, mais une congrégation qui est née à Cantaous. Donc on a fait toute la visite. Hein. Je suis avec vous, mes sœurs. On a visité tout ce patrimoine. Alors, il n'y a pas seulement le site à Cantaous, hein, vos maisons sont un peu étendues dans le diocèse. Vous avez des lieux de vie à Tarbes, à Tuzaguet aussi, pas très loin de Cantaous. Au total, ça fait 8000 m² de terrain, de bâtiments, sur 10 hectares de terrain, dans 5 espaces différents. Ça fait beaucoup. C'est, on peut le dire, un peu lourd à entretenir aujourd'hui pour vous. Et c'est pour ça que vous voulez aujourd'hui nous parler d'un projet que vous êtes en train de monter, que vous avez appelé les projets de Saint-Joseph. Il s'agit pour vous de mettre un peu à disposition ces bâtiments, ces terrains, pour des projets, pour des initiatives en tout genre, mais qui correspondraient quand même à votre identité, à ce que vous êtes, et qui vous permettraient d'entretenir ces lieux, hein, disons-le. Sœur Margaretha, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce projet? Quels sont ces projets de Saint-Joseph? Qu'est-ce que vous proposez exactement?
Bon, nous avons, et comme vous l'avez dit, des bâtiments autour de notre maison mère, mais que déjà ils sont vides. Et nous voulons les donner vie aussi. Pour les entretenir et aussi pour donner de vie à l'aspect pastoral et de notre communauté, de notre maison. C'est pour ça que nous avons vu qu'il y a des bâtiments que nous pouvons soit louer, soit mettre aussi pour quelques activités et qu'on puisse aussi avoir quelques revenus parce que aujourd'hui la vie religieuse, notre vie, nous vivons de ce que nous travaillons,
ouais.
Comme tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons vu que ces bâtiments peuvent nous aider.
Parce que, alors, on s'en est bien rendu compte, ici c'est très, très, très grand et vous êtes aujourd'hui une vingtaine de sœurs à vivre en permanence. L'EHPAD que vous accueilliez auparavant n'est plus en vos murs. Donc, ça fait beaucoup d'espace vide. Et ça, c'est un potentiel qui n'est pas valorisé. Hein.
Oui, et nous voyons que même dans la maison centrale de Cantaous, dans notre couvent, et nous avons des bonnes chambres, des bons endroits où les gens peuvent venir pour rester quelques jours, se reposer. Et nous pouvons les accueillir. Aussi, il y a tous les jardins pour des activités avec les enfants. Et il y a des maisons aussi pour accueillir, pour des différentes activités. Et c'est ça que nous avons voulu faire, mais d'une façon organisée. C'est pour ça que nous avons cherché l'aide d'une personne, avec un groupe de personnes qui nous aident pour voir comment nous pouvons donner une nouvelle vie à tous ces terrains et tous ces bâtiments que nous avons. Et c'est ça que nous appelons les projets de Saint-Joseph.
Voilà, donc en fait, concrètement, vous vous faites aider par une agence, hein, Charisme Conseil, qui a fait un petit peu l'état des lieux de ce qui existe aujourd'hui à Cantaous et dans les différents lieux de vie où vous êtes dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors, votre intuition, c'est bien de mettre à disposition ces terrains, ces bâtiments pour un projet. quel qu'il soit, à condition bien évidemment qu'il corresponde à votre identité. C'est-à-dire qu'il suffit pour cela eh bien, d'avoir un projet fiable à vous présenter.
Oui, je pense que c'est toute une action pastorale aussi, non, autour. Quand nous avons commencé à préparer notre travail, on disait par exemple, une discothèque, je ne crois pas que ça colle ici. Mais s'il y a des groupes de familles qui veulent venir pour rester une semaine, quelques jours, ou des personnes qui voulaient se reposer, et nous pouvons les recevoir aussi des activités avec des enfants et des jeunes, mais dans la ligne pastorale, non? C'est toujours quelque chose de pastoral.
Alors, il y a donc deux genres de projets que vous pouvez accueillir, soit des initiatives ponctuelles, des temps très, très ponctuels que vous pouvez vous accueillir et plus ou moins encadrer. Mais vous êtes aussi ouverte à des propositions sur une durée plus longue pour des projets d'accueil, d'hébergement, de tourisme, de soins, de maraîchage. Et là, vous dites à tous ceux qui veulent bien entendre, proposez-nous un projet, dites-nous comment vous voulez vous implanter en nos murs et nous, on met à disposition soit nos terrains, soit nos locaux, on vous accueille et vous pouvez mener votre projet en nos murs. Mais ce n'est pas un projet que vous, vous dirigerez.
Oui, c'est vrai, parce que, bon, comme dans toutes les communautés religieuses, le nombre de sœurs, ça a diminué. Et nous ne sommes pas en capacité de conduire tous ces projets. Mais nous sommes prêts à accompagner ces personnes et après, voir comment nous pouvons faire, comment nous pouvons continuer non, ces projets.
Concrètement, une personne qui a un projet et qui se dit depuis quelque temps « je voudrais monter telle association ou proposer telle initiative », qui cherche un lieu, qui se dit « ah, peut-être, Cantaous, effectivement, j'ai un potentiel ». Et puis, il y a à Cantaous une âme hein, qui donne envie. On a envie de monter des projets dans un lieu comme ça. Comment doit-on s'y prendre?
Vraiment, et comme nous le disons dans la publicité que nous avons élaborée, c'est avec M. Chouté, non? C'est lui qui nous accompagne. Et c'est directement avec lui qu'on fait la connexion, non? Et lui, immédiatement, il nous appelle, il nous envoie des mails, nous sommes en contact tout le temps. Et c'est avec lui que nous recevons les personnes, non? S'il doit venir, sinon, nous sommes ici, il y a Serge Genevieve, à Cantaous, Maria Teresa, habite à Cantaous, et Fatima aussi, les trois habitent à Cantaous, et moi j'habite à Lourdes, à la communauté de Massabielle.
Donc vous analysez ensemble le projet, et vous voyez, vous discernez en communauté et avec l'agence Charisme Conseil, si ce projet tient la route, si ce projet est cohérent avec votre vie communautaire ici à Cantaous, avec l'identité de la congrégation. Et moyennant une location, vous mettez à disposition donc les bâtiments dont le projet a besoin.
Oui, et nous sommes en lien ici avec M. Chouté, mais aussi avec le conseil général qui habite ici à Cantaous et le conseil régional. Nous travaillons ensemble pour prendre des décisions. Et Geneviève?
Le conseil général et régional de congrégation.
C'est pas le conseil général et régional de la congrégation. Il faut bien.
Oui. C'est vrai que pour moi, tout ce vocabulaire, c'est un peu difficile au niveau des pays.
Voilà. Un contact peut-être, sœur Margaretha.
Bon, moi, j'habite à Lourdes. Mais c'est la communauté Massabielle, oui. C'est rue de l'Angèle.
Donc on indique votre numéro, sœur Margaretha, le 07 51 52 18 82, 07 51 52 18 82. Voilà, donc toute personne qui a un projet doit d'abord bien le préparer et ensuite vous appeler pour vous le présenter. Hein.
D'abord, les gens viennent visiter avant de bâtir le projet. Ils ont le projet dans l'imagination, je suppose, mais ils veulent d'abord connaître personnellement les endroits pour après bâtir concrètement le projet et nous le présenter après.
Et oui, vous avez raison. Donc, et ça, c'est possible. Ils peuvent venir, dire, bah, nous, on est intéressés, mais on a besoin de savoir vraiment ce que vous proposez. On vient enquêter sur le terrain.
Oui, de fait, nous avons déjà programmé 2 visites des gens qui veulent venir connaître.
Voilà. Sachant que ce sont les projets de Saint-Joseph, les bons plans de Saint-Joseph. Dieu sait si Saint-Joseph a des bons plans pour, certainement pour vous, il en a pour tout le monde. Donc faisons confiance.
Si, bien sûr que si, que Saint-Joseph est devant.
Merci beaucoup, mes sœurs, merci pour votre accueil.
Les visages de l'Église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.